France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin une femme qui fut candidate à l'élection présidentielle de 2007. Elle y portait les couleurs de la gauche au second tour face à Nicolas Sarkozy. Elle fut longtemps députée, plusieurs fois ministre, jusqu'en 2017 de l'écologie. Elle publie chez Fayard ce que je peux enfin vous dire. Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Et merci de réserver à France Inter votre première intervention sur un livre étonnant. On va le parcourir ensemble. Un livre sur ce que c'est que d'être une femme politique, une femme en politique. Les coulisses sont peu glorieuses, pardon. Et vous ne mâchez pas vos mots. Un livre sur l'écologie en général aussi, et l'écologie au sein d'un gouvernement. Et pour finir, un livre assez personnel sur vous, marqué dans ses dernières pages par une forme de sagesse ou de quiétude. On va voir ça. Mais pour commencer, Ségolène Royal, et en toute franchise, ce titre, ce que je peux enfin vous dire. Vous n'avez jamais eu votre langue dans la poche. Vous avez toujours été transgressive. Vous êtes absolument libre de votre parole. Vous savez ce qu'est le pouvoir. Vous l'avez manié, vous l'avez exercé. Vous savez comment fonctionnent les médias. Qui vous a jusque-là contrainte au silence ?
D'abord, merci de votre invitation, de cette présentation. Il y a deux choses qui m'ont contrainte au silence. La première, ce sont les agressions sur moi en tant que femme. Et je prends la parole aussi parce que, et c'est une bonne chose, le féminin se fait enfin entendre dans la société contemporaine. Et j'ai toujours pensé, et c'est quelque chose qui est en train de se révéler, c'est que l'humanité fait du masculin et du féminin. Et lorsque le féminin disparaît, ou est-ce que quand il est marginalisé, finalement l'humanité est amputée non seulement de la moitié d'elle-même, mais aussi de la part de créativité, de génie qui existe dans le féminin et dans le masculin.
Et donc là, il fallait dire, voilà ce que j'ai subi et je le partage avec vous.
Voilà, je pense que la prise de parole dans le mouvement MeToo m'a aussi autorisée à cette prise de parole que beaucoup m'ont demandé. Même si ça a été douloureux de prendre la plume pour écrire et pour revivre un certain nombre de scènes que j'avais rangées dans ma mémoire frigorifiée, il a fallu que je revive ces scènes. Ça a été extrêmement douloureux et ensuite ça m'a fait du bien et c'est devenu un devoir. Et ce qui est, je crois, tout à fait particulier dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que les hommes aussi m'ont demandé de prendre la parole. Et dans le mouvement MeToo, on a beaucoup entendu parler des femmes, et ça c'est salutaire, mais ce que l'on n'a pas beaucoup dit, et qui est à la fois, à mon avis, aussi révolutionnaire, c'est que les hommes qui se comportent bien, et heureusement ils sont nombreux, ont été stupéfaits, estomaqués, découvrir ce continent caché.
Ségolène Royal,
des femmes abîmées, des femmes mutilées, des femmes salies.
Pour tous ceux qui n'ont pas lu.
Parlez pour nos filles, parlez pour nos mères, parlez pour nos compagnes.
Mais dites-nous, pour tous ceux qui n'ont pas lu, vous dites, ça m'a tétanisée, j'ai été très blessée. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que le pire du sexisme que vous avez vécu? Que vous voulez dire? Vous dites, je sors du silence. Dites-nous.
Bon, je pense que ceux qui ont vécu, par exemple, la campagne de 2007 ont un souvenir de cela. Le plus dur, je pense, c'est d'être mis en cause dans son intelligence, d'être traité de folle. C'est très, très fréquent d'être traité de folle, de quelqu'un d'incontrôlable,
d'un espèce de truc. La gauche
ses nerfs, qui va perdre ses nerfs.
La gauche bécassine, la une de libération.
La une de libération avec la gauche bécassine, l'impasse d'un ancien Premier ministre, la bulle médiatique
l'ancien
qui va
Premier
éclater.
Ministre Lionel Jospin.
J'ai repris au fond les attaques de mon camp, parce que des adversaires, on peut penser que c'est la règle du jeu, même s'il y a des attaques qui sont insupportables. Mais bon, c'est la règle du jeu des adversaires politiques, faut on prend des coups, on le sait. Mais de son propre camp, je pense qu'aucun homme politique n'a connu cela. Et ce que j'ai voulu décrire, c'est ce qu'une femme subit en politique et qu'un homme ne subit pas. Et en mettant bout à bout l'ensemble de ces attaques, sans mettre les noms, parce que voilà, chacun se reconnaîtra.
Et on en reconnaît certains.
Et ce qui est grave, c'est que des gens qui sont en responsabilité tiennent ces propos. C'est la fonction. C'est pas le nom, mais c'est la fonction même qui fait que ces attaques sont insupportables. Et encore récemment, la semaine dernière, un ancien ministre du gouvernement socialiste a dit à un hebdomadaire que j'avais un grain de folie. Mais c'est insupportable. On ne dit pas ça d'un homme. Et tous Gaulle. Ces hommes qui m'ont attaqué,
c'est Ségolène Royal. Nicolas Sarkozy, ça a fait la une plusieurs fois. Oui, les présidents sur le divan,
pareil.
C'est un marronnier.
Oui,
sont-ils fous?
C'est
à quoi
pas
rêvent-ils
pareil, parce que quand on dit d'une femme qu'elle est folle ou qu'elle a perdu la raison, etc.
La connotation est différente.
La connotation est différente. La connotation est totalement différente. Et ça, je pense qu'il faut que ça cesse.
Vous parlez vous parlez de la violence des mots. Franchement, vous racontez vous-même que dans l'hémicycle, il y a une scène hallucinante entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, oui. d'une immense vulgarité, tellement vulgaire que je ne vais pas vraiment citer. Il lui demande s'ils sont... Dites-nous,
peut-être que vous y...
Peut-être que...
Non,
je mets la première lettre et la dernière.
Oui. Alors...
C'est pas la version courte, c'est la version longue.
Emmanuel Macron, le matin même, c'est le ministre, il vient de parler de la croissance en berne. Oui, que fait Manuel Valls? Quand
donc
Emmanuel Macron.
Il l'interpelle physiquement sur ce sujet, mais je raconte ça pour montrer comment le dérapage des pulsions hormonales masculines aussi, que la présidente du FMI d'ailleurs décrit aussi, vous avez vu dans la prise de risque, cet aéropage d'hommes blancs qui font de compétitions hormonales, prennent des décisions souvent incohérente et on va alors que les femmes sont beaucoup plus prudentes, prennent beaucoup moins de risques et ce sont elles que l'on qualifie d'incontrôlables.
Mais quand les hommes aussi, aussi sont victimes. Vous voyez, quand vous racontez cette histoire, je reviens à cette histoire de Valls et de Macron, d'Emmanuel Macron et de Manuel Valls. Vous voyez que les hommes aussi sont victimes et vous dites les
victimes
de violences, victimes de mots sexués, victimes d'agressions terribles et eux aussi contraints au silence. Vous dites j'ai dû me taire. Je sors du silence.
Je ne crois pas que les hommes soient victimes. Non, ça, je m'inscris en faux dans ce que vous venez de dire, si je puis me permettre.
Je vous en prie. Non, mais le monde politique est dur pour eux aussi.
Pour tout le monde.
Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour les femmes, il va y avoir une dégradation physique, une sexualisation. Je redonne l'exemple des insultes sexuelles que les femmes reçoivent. Et surtout, une remise en cause de leur intelligence. Et ça, ça existe aussi dans le monde du travail. Ce que j'ai voulu dire aussi à toutes les femmes, pas seulement celles qui font de la politique, c'est qu'il faut qu'elles cessent de se dénigrer. Car le dénigrement que les femmes connaissent aussi dans le monde du travail justifie ensuite les inégalités salariales. Et les femmes intègrent cette infériorisation. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivée à la tête du ministère de l'Environnement, sur une quinzaine de cadres supérieurs, il devait y avoir 2 ou 3 femmes maximum. Quand j'ai quitté le ministère, j'avais réalisé la parité, avec des femmes qui avaient les mêmes diplômes, des ingénieurs, etc. Au début, quand une femme prenait la parole, alors qu'elles étaient très minoritaires dans ce groupe de direction, les hommes se mettaient à parler entre eux. Et combien de femmes ont subi ça dans le monde du travail quand elles sont minoritaires dans une réunion? Quand la parité s'est installée, quand j'ai reçu les femmes pour les nommer, toutes, vous m'entendez bien, toutes m'ont dit « mais est-ce qu'on sera capable ?» Pas un homme ne m'a dit « est-ce que je serai capable ?»
Ça va
tous
mieux,
les hommes ont négocié leur salaire.
Ségolène Royal.
Une femme sur 3 seulement
j'ose
a
plus
osé
vous interrompre.
Parler de son salaire. Pardon. Et ça se retrouve aussi dans le monde du travail.
Est-ce que ça va mieux tout de même? L'Assemblée nationale n'a jamais accueilli autant de femmes sur ses bancs. Aujourd'hui, les gouvernements se doivent d'être paritaires. En tout cas, c'est la promesse qui est faite. Est-ce que depuis la campagne présidentielle 2006-2007, est-ce que les choses avancent tout de même, et positivement.
Je pense que les choses avancent, mais uniquement parce que, comme vous venez de le dire, le rapport de force en nombre a évolué. Mmh. Je pense qu'il serait impossible aujourd'hui à une femme d'être traitée de vache folle comme je l'ai été, en intégrant une commission de travail sur les farines animales, parce que j'étais élue d'un département très rural, les Deux-Sèvres, et que mes collègues de mon groupe politique, pas un n'a bougé, pas un. Aujourd'hui, je pense que ce ne serait plus possible et que même les parlementaires d'autres opinions politiques interviendraient, se lèveraient et quitteraient la salle. Mmh. Je pense que les hommes aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles et comme je le dis dans mon livre, en avançant cette idée de féminisme positif, je dis que les choses ne changeront que si les hommes aussi portent un autre regard sur l'organisation de la société. Et comme le disait l'anthropologue Françoise Héritier-Auger, s'ils considèrent aussi qu'un plus juste équilibre dans la société est aussi un bienfait pour eux-mêmes. Et c'est ça qui doit absolument changer. Même si on a besoin de la radicalité des femmes féministes, parce que c'est toujours les avant-gardes qui font aussi bouger les choses, je pense que ce qui reste à construire, c'est ce féminisme positif, exigeant, et on a absolument besoin des hommes qui, je le répète, se comportent bien et heureusement, et qui ne veulent pas de ce monde brutal pour leurs filles et pour la génération qui
vient. Ségolène Royal, si on reste encore un instant sur la politique, vous décrivez donc le plafond de verre dans votre camp. Que faites-vous ? Est-ce qu'il existe ailleurs ? Que faites-vous de l'exemple Marine Le Pen, une femme en politique ?
Alors c'est une bonne question. C'est pas parce qu'on est femme que toutes les autres caractéristiques du personnage disparaissent. Vous voyez, donc on peut être une femme d'extrême droite et donc combattre les idées d'extrême droite, même en tant que femme. Cette globalisation du fait féminin qui anéantit et qui supprime toutes les autres caractéristiques de la femme est aussi une forme de sexisme, d'une certaine façon. Donc la femme, elle doit exister dans sa féminité, comme l'homme existe dans sa masculinité. L'humanité est faite du féminin et du masculin, comme je l'ai déjà dit, et donc c'est cet équilibre-là qu'il faut retrouver. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous voyez autour que des dirigeants, des hommes blancs, comme je l'ai dit, supposés hétéros, et qui sont dans les entourages des responsables politiques. C'était vrai sous le quinquennat précédent, je le décris, c'est vrai sur le quinquennat d'aujourd'hui, mais au niveau mondial, c'est encore plus grave. Regardez ce qui se passe à l'échelle des chefs d'État et de gouvernement européens. Si en plus Angela Merkel s'en va, il n'y a plus que des hommes. Comment peut-on soutenir l'idée que l'Europe est un espace de civilisation et d'avenir, alors que quand il y a les photos des chefs d'État et de gouvernement européens, il n'y a que des hommes.
Et quels hommes dans certains cas, quand on voit le populisme. Le populisme est une forme aussi de machisme et de virilisme exacerbé. On le voit au Brésil, la misogynie est claire, assumée, posée. Aux États-Unis, idem. Et puis c'est l'homme fort, mais c'est l'homme. C'est ça ce qui est étonnant. Comment vous vivez cet aspect-là de ces mouvements qui progressent ?
Vous avez raison. Et en plus, un élément supplémentaire que je décris d'ailleurs dans mon livre, c'est que tous ces hommes qui sont arrivés aux responsabilités d'extrême droite et au Brésil, ils viennent d'annoncer leur retrait de l'accord de Paris sur le climat. Et si c'est-à-dire, il y a un lien très étroit entre la question de la féminité et la question de l'écologie.
La même réalité. Oui. Pourquoi dites-vous ça d'ailleurs ?
D'abord parce que l'expérience des combats écologiques que je décris, qui vont surprendre beaucoup, hein, par exemple sur l'huile de palme, j'ai quand même dû gérer une menace d'exécution d'un prisonnier français en Indonésie. Donc il faut voir la violence des rapports de lobby sur la question des combats écologiques, et ça c'est très important que l'opinion publique sache
ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont eux qui font la politique ? Sur l'agriculture, par exemple, les lobbies, quel est le pouvoir réel ? Vous décrivez cet exemple, il est frappant, il est fort. Est-ce que ça se généralise ? Est-ce que ça se passe tout le temps comme ça ? Quel est le pouvoir réel des lobbies ?
Le pouvoir des lobbies est puissant parce que c'est le pouvoir de l'argent. C'est le pouvoir aussi du silence, de la loi du silence, parce que c'est quand la loi du silence s'impose que toutes les prédateurs, les pollueurs, les surexploiteurs de la nature peuvent agir. Et pour revenir aux États qui aujourd'hui annoncent le retrait de l'accord de Paris, on voit effectivement que ce sont les dirigeants d'extrême droite, les extrémismes qui sortent de l'accord de Paris, c'est-à-dire qui renoncent aussi un juste équilibre au profit de celles et ceux qui doivent se considérer comme co-responsables du patrimoine. Et par rapport à la question que vous posez sur le parallélisme entre les deux, je montre à quel point il est étonnant de voir que c'est le même vocabulaire. Vous voyez, la terre souillée, la terre abîmée, la terre violée, la terre surexploitée, comme les femmes souillées, les femmes abîmées, les femmes violées, c'est-à-dire celles qui subissent des violences. C'est la même chose, c'est-à-dire l'homme prédateur prend la terre, comme l'homme prédateur prend la femme. Et c'est pour ça que ces deux combats sont étroitement liés. Et quand j'ajoute que le principal fléau aujourd'hui de la politique, comme de ce que subit la planète, c'est la déshumanisation et le déracinement, on voit que ces deux combats sont éminemment politiques.
Question d'actualité, mais qui a à voir avec l'écologie. Les prix de l'essence des carburants augmentent, Ségolène Royal, pour une part, en raison, dit le gouvernement, d'une fiscalité écologique. Le gouvernement assume, il faut décarboner, et bien commencer d'une manière ou d'une autre. Mais vous, vous avez fustigé ces mesures, parlé de matraquage fiscal, d'écologie punitive. N'est-ce pas, Ségolène Royal, de la pure politique politicienne de votre part quand vous dites ça? Il faut bien commencer par prendre le sujet par un bout, non? En quoi la fiscalité écologique, là, est punitive?
La fiscalité écologique, là, est punitive parce que elle provoque un prélèvement sur le pouvoir d'achat. Le consommateur a le sentiment d'être piégé. Alors que le consommateur, il n'a qu'une seule envie, c'est de ne pas polluer la planète. Il voudrait bien rouler propre. Donc, s'il avait le libre choix, c'est-à-dire si une voiture électrique ou une voiture hybride coûtait le même prix qu'une voiture polluante, et qu'à ce moment-là, on mette des taxes sur la voiture polluante et on donne des primes pour la voiture propre, le consommateur pourrait avoir un libre choix. Mais... et donc, il y aurait une fiscalité positive parce que ça permet le libre choix. Mais vous savez, je suis cohérente avec moi-même, si je puis dire, puisque j'étais la seule présidente de région écologiste et j'étais la seule présidente de région à ne pas avoir pris la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la taxe sur l'essence. Car je disais aux habitants de la région, voilà, nous allons mettre des primes sur les vélos électriques, sur l'achat des voitures électriques, changer de comportement. Faites attention.
Investissez. C'est la politique des petits pas, disait ici Nicolas Hulot. Les petits pas, ça marche pas. C'est ce qu'il a dit fortement en démissionnant. Alors peut-être que vous avez une approche totalement différente, mais voilà le constat qu'il livrait. Ça ne marche pas et ça n'est pas à la hauteur des enjeux.
D'ailleurs, on comprend mieux pourquoi Nicolas Hulot a démissionné quand on voit la succession semaine après semaine des décisions anti-écologiques et des reculs sur l'écologie que subit aujourd'hui la France. Mais la politique des grands pas, c'est une politique positive, c'est-à-dire c'est par exemple le crédit d'impôt de transition énergétique que dans les Français.
Là, le gouvernement ne fait pas assez.
Mais il l'a supprimé.
Il l'a supprimé. Il fait d'autres choses. Il fait la conversion.
Un milliard de dons sur le pouvoir d'achat des Français pour faire des travaux d'économie d'énergie, doubler les fenêtres, doubler les portes, doubler les volets. C'était très efficace, c'était très citoyen. Les PME avaient créé des tas d'emplois dans tous les territoires. Ça a été supprimé. Donc, il n'y a pas de cohérence. Pour faire une bonne politique écologique, il faut du plus, il faut du positif. Parce qu'il faut entraîner les gens vers une rigueur sur le comportement, sur les économies d'énergie, sur la façon dont on consomme, sur la lutte contre le gaspillage. C'est ça qui va protéger la planète et ça peut être très puissant et très rapide, puisque l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas.
Et donc Emmanuel Macron sujet fait majeur, fausse route en procédant comme ça, et l'exécutif, ils font fausse route?
Je pense que non seulement ils font fausse route, mais l'argument n'est pas honnête. Ce n'est pas vrai que ces taxes sur l'essence sont mises pour des raisons écologiques. Elles sont mises pour faire rentrer des impôts.
Vous êtes chez vous-même pour la
faire. Et c'est d'autant plus grave que c'est fait à un moment où le prix du brut augmente. C'est-à-dire que l'automobiliste, c'est un outil de travail, la voiture. C'est un outil de travail. Et c'est un outil de travail d'autant plus important qu'on habite loin des centres-villes et loin de son lieu de travail.
Mais vous êtes chez vous-même, Ségolène Royal, pour la convergence du prix du diesel et de l'essence.
Absolument. Je l'ai même fait voter dans la loi. C'est-à-dire, il faut neutraliser, c'est-à-dire il ne faut pas que l'impôt soit plus bas sur un carburant polluant que sur un carburant qui l'est moins. Mais il y a deux façons de faire cette convergence, c'est d'augmenter tout ou c'est de baisser ce qui ne pollue pas et d'augmenter ce qui pollue. C'est ça que j'avais mis en place et de façon modérée et au moment où le prix du brut baissait. Donc le prix à la consommation n'augmentait qu'assez peu puisque c'était 1 centime par an. Et là, ils font 7 centimes alors que le brut est très élevé, encore 6 centimes l'année prochaine. Mais ça, c'est pas possible parce que il va y avoir une répercussion sur les factures, sur les prix que les artisans vont devoir faire payer aux consommateurs, etc.
Donc ça va gripper l'ensemble.
Ça va gripper l'ensemble et il vaut mieux relancer la croissance pour faire rentrer des recettes fiscales dans les caisses de l'État. Il vaut mieux relancer la croissance parce que les recettes fiscales seront automatiques. Et la croissance, elle repose aujourd'hui sur la croissance verte.
Je voudrais, Ségolène Royal, qu'on passe au standard. Il y a beaucoup de questions qui vous sont adressées. On en a encore beaucoup d'autres avec Alexandra Ben Saïd également. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, Ségolène Royal.
Bonjour.
Alors je vous pose une question très précise. Votre déclaration qu'on vous a rappelée tout à l'heure, il ne faut pas d'écologie punitive. Quand vous l'avez faite, ça m'avait choqué. J'ai une formation d'environnementaliste, j'ai été le secrétaire du réseau des Amis de la Terre, et pour moi, je sais depuis longtemps que la base de la prise en compte des problèmes d'environnement dans l'économie, c'est le pollueur-payeur. Mmh. C'est comme ça que fonctionnent les agences de bassin.
Oui.
Alors, comment peut-on dire, alors est-ce que c'est quand même d'une certaine façon punitif?
Ben oui, faire payer les gens qui polluent et les rendre responsables de leurs actes, c'est effectivement punitif. Merci Gérard pour cette question, Ségolène Royal. Le raisonnement est limpide.
Oui, c'est une bonne question et ça n'est pas du tout antinomique avec l'écologie positive. Je m'explique. Il faut en effet faire payer la pollution. Il faut sanctionner beaucoup plus sévèrement d'ailleurs ceux qui ne respectent pas les règles de protection de la nature. Et c'est vrai que souvent les condamnations sont trop faibles. Et donc, effectivement, il faut punir ceux qui ne respectent pas les règles et il faut punir ceux qui polluent. Y compris pour les encourager à s'orienter vers d'autres types d'activités.
Mais pas les citoyens, c'est ça ce que vous dites.
Mais pas les nouvelles.
Pas le même
formes,
principe.
L'engagement nouveau dans des comportements écologiques et pas en ayant l'impossibilité de changer de comportement. Mmh. Dans le principe pollueur-payeur, qu'est-ce qui est positif dans ce principe? C'est que pour éviter la taxe, l'industriel va avoir intérêt à moins polluer. Donc la taxe de pollution, la punition de pollution, pour reprendre votre expression, c'est pas une punition, c'est une incitation à changer de comportement. Et il faut que justement cette taxe pollueur-payeur soit suffisamment lourde pour que l'industriel ait intérêt à investir dans la dépollution pour ne plus payer la taxe. Donc ce dispositif permet une action positive au sens où ça permet et ça encourage la production propre.
On retourne au standard. La parole à Bruno. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour France Inter, merci pour vos programmes, non seulement le 7-9 mais toute la grille. Félicitations à tous.
Merci à vous.
Bonjour Madame Royal.
Bonjour.
Je souhaite savoir Madame Royal sur le livre que vous venez de d'écrire, de rédiger et de publier. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui en direct sur France Inter quel type de constat sur votre propre personne, votre propre parcours vous faites? Et peut-être même une minime amende honorable, sait-on jamais, sur les comportements qui ont été les vôtres et qui ont pu susciter de la part de vos adversaires, mais aussi des éléphants du PS lorsque vous vous êtes présenté à la présidentielle, qui ont pu susciter ces attitudes violentes que vous décrivez. Parce que d'autres femmes qui ont fait aussi une longue carrière en politique, comme Tarja Halonen, ex-présidente de la Finlande, Michelle Bachelet au Chili, mais aussi Christine Lagarde ou Madame Merkel, ne font pas l'objet de ces attaques, parce qu'elles n'ont pas, elles, les petites phrases assassines et les petites intrigues dont on a pu aussi vous accuser. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui ce que vous ne referiez pas?
Merci pour cette question. Ségolène Royal vous répond.
La première chose, c'est que je pense que contrairement à ce que vous dites, ces femmes aussi ont subi des attaques. Je connais bien Michelle Bachelet, parce que j'étais même allée la soutenir pendant sa campagne présidentielle. Elle aussi s'est imposée la loi du silence. Beaucoup de femmes se sont imposées la loi du silence. Et je disais récemment, Christine Lagarde a fait état du comportement aussi des hommes, certes par rapport à la prise de risque financière, mais globalement aussi par rapport au dénigrement dont elle a fait l'objet. Et je cite d'ailleurs dans mon livre beaucoup de femmes qui ne sont pas de mon camp politique et qui ont subi ces attaques, et vous verrez que c'est unanimement répandu, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche.
Alors
peut-être que je dérangeais mon camp, ça c'est vrai, parce que j'avais des idées iconoclastes qui n'étaient pas les idées de celles des éléphants du Parti Socialiste, qui me les ont beaucoup reprochées, qu'on m'a traité de femme de droite parce que je pensais que les valeurs de la nation, que les valeurs de la famille étaient des valeurs très importantes, et ça j'ai dérangé.
Et maintenant,
Et j'ai dérangé aussi parce que, comme il y a un plafond de verre, le fait pour une femme de prétendre accéder à la fonction suprême, ça c'est insupportable pour les hommes qui considèrent que c'est leur monopole.
Allez, dernière question.
Et maintenant, Ségolène Royal, est-ce que vous dérangez autant? On entend que vous pourriez être tête de liste pour mener une liste aux européennes qui rassemblerait peut-être PS et Écolo. Est-ce que vous seriez tête de liste d'une telle liste?
Bon, comme vous l'avez entendu, c'est vrai que je suis aujourd'hui sollicitée. Donc je regarde, je réfléchis. C'était pas du tout mon idée ni l'itinéraire que j'avais imaginé d'être candidate et de replonger dans la vie politique avec les épreuves que ça représente
et que
je décris. Je ne sais pas. Je vais regarder. Je vais écouter.
Vous saurez quand.
Et pour une fois, j'ai peut-être choisi en fonction de ce que j'ai envie moi de faire personnellement et au fond de calculer quelles sont les une fois de plus que je ça va déclencher en termes d'ego et donc d'agressivité et éventuellement si je peux être utile pour répondre à une question qui est absolument cruciale aujourd'hui, c'est-à-dire l'avenir de l'Europe qui est très menacée, l'avenir de la France
en Europe,
on verra.
Vous
avez envie. Je ne sais pas, on verra au mois de janvier.
Merci Ségolène Royal. Ce que je peux enfin vous dire est publié chez Fayard. On a fait qu'effleurer le livre, on a beaucoup parlé d'écologie. Il y a 1000 autres aspects dans ce livre, certains, je le disais, très intimes, d'autres très rudes. Vous mâchez pas vos mots contre vos adversaires politiques.
Oui, ça mais peut... c'est pas un règlement de compte.
Non, c'est pas un règlement de compte, mais
faits.
Ça peut être.
Ce sont des faits, c'est ma vérité.
Ça peut être parfois déstabilisant pour le lecteur.
Et
mais
bah,
je laisse les auditeurs et les lecteurs se faire leur propre idée. Merci encore. On est très en retard. Merci d'avoir été sur Inter ce matin.